Cascodeur Podcast, épisode 90. Le tube du moment. Enregistré le 31 octobre 2013.
Bonjour à tous et bienvenue pour l'épisode 90 des Cascodeurs. Nous sommes le 31 octobre,
la fête des morts.
Ouais.
La fête des quoi ?
C'est la fête des morts. La célébration
c'est Halloween.
Des morts.
C'est Halloween. Ah, oui. Tu fêtes pas Halloween, Antonio ?
Bah non. Enfin, si, 365 jours par an, je m'habille en noir.
c'est vrai.
En fait, ils font les morts, la mort des immeubles.
Chez lui, ouais, c'est ça. Bon, comme vous aurez remarqué, donc aujourd'hui nous sommes trois, donc Arnaud Héritier, Exoplateforme. Je vais essayer de gérer un peu l'épisode, vu que Emmanuel, lui, s'est expatrié à l'autre bout du monde, et donc il risque d'avoir des petits problèmes d'audio, c'est ça ?
C'est ça. En fait, je suis à l'étranger, travaillant, enfin, on fait une réunion d'équipe, donc c'est déjà, ça arrive pas souvent, donc là, j'essaie d'être là, et puis si Skype tombe, eh ben, vous continuez sans moi, en gros. C'est un peu ça.
Et le troisième, bah, c'est Antonio.
Yes, it's me. Et c'est pas moi qui lead parce que à côté de chez moi, ils sont en train d'abattre un immeuble de 4 étages et ça fait un bruit de fou. Voilà.
Bon, donc aujourd'hui, on va essayer d'aborder bah, toutes les news du mois. On va démarrer avec tout ce qui est Java et le langage. Donc on revient déjà sur Java One qui a eu lieu, c'était quoi ? Donc il y a 3 semaines, je crois. C'est ça, si je ne me trompe pas.
3 semaines déjà, oui. Ah,
c'est ça. Fou. Vous y étiez tous les deux ?
Ouais. Et puis,
ben, on a même fait un épisode spécial Java One, Arnaud.
C'est ça, un super épisode.
Un super épisode.
Et donc, il y a un article de Matt Rebol sur justement Java, où est-ce que ça va être, Java 8, c'est révolutionnaire. C'est quoi votre avis par rapport à toutes les sessions que vous avez pu voir, par rapport à tout ce que vous avez pu entendre là-bas? Donc, ça, c'est vrai, Java va revivre, Java va reprendre de sa sublime?
Moi, je dirais pas ça exactement, mais c'est vrai que c'est... Comme le train pendant un moment, ça a été bah, Java est mort, tout le monde s'en va. Là, il y a quand même un retour. On en avait déjà parlé avant, que ça soit au niveau de la VM, au niveau du langage. Ils vont peut-être sortir Java 8. Moi, je suis assez malgré les choses qui n'ont pas pu être mis dedans. Moi, je suis assez excité. Java 8, ça va être un Java 5, quoi. Il va y avoir des grosses évolutions au niveau des frameworks et de la façon dont on travaille. Et puis bon, Java I, bon, c'est un petit peu moins révolutionnaire, on va dire, mais bon.
Un petit peu moins, mais Java SE aussi. Enfin, moi, j'étais hyper déçu lorsque notre ami Marc Reynolds a dit que Jigsaw c'était mort en fait.
Ouais, c'est ça.
Et que les modules, on les aura jamais. Bon, en 2013, moi, je me souviens de la spécification. Si je dis pas de bêtises, c'était la 294. Ça s'appelait déjà les modules. Après, il y a eu Super Package. Enfin, on en parle depuis 7 ou 8 ans. On y croyait. On nous avait dit Java 8. Après, on nous a dit Java 9. Et maintenant, on nous dit Java.
On dit c'est lent. On a les modules, nous.
Pas mal.
On a peut-être pas plein d'autres choses. Mais on a les modules.
Mais au moins, il y a les modules. C'est déjà ça.
Bon, non, je suis pas d'accord avec toi. Enfin, oui, je suis déçu au niveau des modules, mais je suis pas d'accord avec toi. Il y a les lambda et tout ce qui va avec qui vont faire que je pense que les gens vont adopter Java 8 et que il va y avoir des trucs bien qui vont sortir un petit peu comme on avait eu ce coup de vent positif au niveau des annotations en Java 5. Ah, sinon, tiens, en parlant de Java E, là, Arun Gupta a quitté Oracle et nous a rejoint.
Ah oui, j'ai vu ça, effectivement. Et il est sur quoi ? Parce que je ne sais pas si ça a été annoncé, c'est public, c'est pas... Je sais pas.
Il est évangéliste, en fait.
Ouais, il est évangéliste du Whitefly et Java E, en fait. Plus ou moins ce qu'il faisait, sauf qu'il il a fait un remplacement de Glassfish en Whitefly.
Ça me fait un petit peu peur, moi, ça. Je sais pas, Emmanuel, tu peux peut-être pas trop en parler, mais moi, ce qui me plaisait avec Red Hat, c'est que les évangélistes, c'était vous. Et je me demande si Red Hat essaie pas de faire comme les gros oracles IBM en disant notre évangéliste, ça sera lui, et les développeurs, vous les verrez plus parce qu'ils tapent du code. Non ? Oui ? Peut-être ?
C'est un peu que... Peut-être un petit peu, mais c'est plus. Je le vois plutôt comme s'il y a plein de choses qu'on faisait pas en termes de communication et de communauté, parce que justement, bah les gens ils codaient un peu et ensuite ils allaient dans les conférences et puis après ils dormaient et voilà. Mmh. Et là, ben, il y a Andrew Robinger qui a aussi bougé sur un rôle un petit peu comme Harun. Donc, c'est, je pense qu'il y a plutôt une continuité où on veut remettre un petit peu d'emphase sur la communauté en termes de management, en termes de fonctionnalité. Et Harun, par exemple, je sais pas si t'es sur Wildfly Dev, mais là, il a ouvert, tiens, comment ça se fait quand je fais ça, ça marche pas, etc. Donc, je pense qu'il va avoir un œil plus focalisé utilisateur et donner un feedback intéressant sur les différents projets. Donc, on va voir. Mais c'est pas l'idée de séparer évangélisation de lead développeur. En tout cas, pas aujourd'hui.
J'ai aussi l'impression que c'est de plus en plus large le scope chez JBoss Red Hat. Enfin, il y a aussi le fait de la multiplicité des projets. Quand tu prends Wildfly, c'est découpé en une myriade de mini-projets, de mini-trucs. Ça doit être difficile aussi de communiquer et de présenter un ensemble cohérent s'il n'y a pas des gens aussi qui s'y affairent spécifiquement. Enfin, c'est un peu le truc. Wildfly, c'est quand même.
Faut le développer, donc faut.
Ouais, ensuite, c'est ça.
Faut communiquer et tu peux pas tout faire. Enfin, c'est pas des équipes de 30 personnes qui font ça. C'est souvent le corps de l'équipe, c'est 5, 6, peut-être 7 personnes sur chacun des projets un peu importants. Donc ça va vite, hein. Le temps il est consommé assez vite.
Ouais. Voilà. Donc dans les. Tu fais pas ton cool?
Toi qui fais cool,
c'est moi qui fais le cool. Donc dans les autres nouveautés là sur du côté de chez Oracle, là c'est la nouvelle version de Java. Donc on en est à l'update 45 de Java 7. C'est surtout de la sécurité, surtout des fixes de sécurité, ce que j'ai lu et compris, c'est ça.
Ouais. Et puis il y a il y a le JDK pour ARM sous Linux.
Ah oui, c'est vrai.
Donc voilà, ça c'est intéressant. Et puis il y a effectivement des trucs de sécurité sur empêcher qu'un jar signé puisse être réutilisé par quelqu'un d'autre. Enfin bon, bref, pour les gens qui font des déploiements d'applications dans des environnements un peu untrusted, on va dire. Mm. Voilà, ils ont amélioré certaines choses là-dessus. Voilà. Ils ont corrigé ils ont remis des choses qu'ils avaient enlevées un petit peu abusivement apparemment sur des prompts de sécurité, des choses.
Oui, j'ai vu ça aussi. Ouais. Enfin,
ça. Ouais, puis il y a un petit truc aussi sympa qui vient avec la version 45, c'est ce Java Mission Control. Donc
vous
allez dans le répertoire bin, maintenant vous avez un outil qui s'appelle JMC, donc Java Mission Control, et lorsque vous le lancez, ben il y a un dashboard avec des couleurs, avec des courbes, on voit le processeur, la heap, la young heap, la staging, le machin, les trucs, il y a des compteurs, c'est très très beau.
D'accord,
je sais pas bien comment ça marche encore, mais c'est très très beau, on voit tout en fait.
C'est pas juste un revamp de JConsole, mais en plus joli, enfin il y a plus d'infos ou...
Ben je sais pas trop, j'ai pas encore beaucoup regardé. Il y a tout ce qui est lié au processeur, à la mémoire, un peu à la Visual VM.
En fait, pour moi c'est ça, oui. Pour moi c'est ça, c'est que c'est un Visual VM +++, mais ils ont repris ça d'ailleurs. Ça vient de chez qui ? Ça c'est. Il me semble que c'est quelque chose.
Chez Apple, hein, Mission Control.
Non, mais il me semble, je sais pas, c'est pas un truc qu'ils ont repris. Je sais plus. J'ai lu un truc là-dessus. Non, désolé.
Ben, je comprends plus trop moi, parce qu'il y a JConsole, il y a Visual VM, il y a NetBeans avec leur outil là, je sais plus comment il s'appelle, et avec un plugin Visual VM. Et puis Visual VM, t'as un plugin JConsole. Et maintenant, t'as ce fameux Java Mission Control qui est très très beau. Mais je vous avouerai que j'ai pas encore eu le temps de jouer avec. Mais c'est très très beau.
C'est très très beau, c'est essentiel.
Il y a un plugin Eclipse aussi. Hein.
Ouais.
Bon bah à regarder, il faudra le mettre dans les show notes.
Dans les show notes, à regarder, à creuser. Dans les nouveautés, les nouveautés, c'est à peu près tout sur côté plateforme. Dans les articles qui nous ont intéressés, c'est toi qui as dû le rajouter, Emmanuel, c'était sur l'article sur les deadlocks et les caches, un truc intéressant.
Ouais, sur les deadlocks, en fait, il y a normalement la VM, elle est capable de détecter les deadlocks et de les montrer. Donc c'est à vous après de les corriger, hein. Elle décide pas, peut-être qu'elle décide de tuer certains locks à la main. Enfin bref. En tout cas, en général, c'est à vous d'éviter que votre appli fasse ça. Et là, il y a un article de Pierre-Hugues Charbonneau qui détaille un deadlock qui n'était pas détecté par les algorithmes de l'AVM et qui ne l'est toujours pas, je crois. Ils ont amélioré certaines choses, mais il n'est toujours pas. Et donc, il explique, il détaille un petit peu comment ils ont trouvé le problème, comment est-ce que vous pouvez avoir des petits hints, alors comme dit des petits, je sais pas comment on dit en français, bon, j'ai oublié, qui vont dire tiens, peut-être que j'ai effectivement un problème de deadlock caché qui est pas reconnu par la VM. Et donc pour les gens qui s'intéressent, qui veulent mettre un peu les mains dans le cambouis, c'est assez intéressant d'aller lire l'article. Voilà. Je vais pas aller un peu trop dans le détail, mais c'est un petit peu ça.
Et un autre article que tu avais vu, c'était sur les overflows, enfin les arithmétiques overflows, les intrinsèques, c'est ça?
Ouais, alors mais j'ai complètement oublié. Je sais plus. C'est quoi les intrinsèques en fait? C'est ça qui m'avait intéressé, mais j'ai déjà oublié. Ah oui, c'est ça. En fait, les intrinsèques, c'est des patterns de code qui, quand la VM les détecte, elle dit oh, bah ça, je peux l'optimiser en beaucoup mieux. Donc, ils détectent non pas, ils essaient pas d'optimiser le bytecode un par un, mais ils regardent un bloc de bytecode qui ressemble à un pattern qui est connu et qui peut être optimisé si vous êtes sur un processeur donné. En l'occurrence, là, il pourrait optimiser l'overflow de détection d'overflow en arithmétique sur les processeurs Intel, je sais pas quoi, en une seule opération au lieu de 5 ou 6 ou voire même 10 lignes de bytecode. Et donc, il montre comment ça pourrait théoriquement être fait. Et donc c'est intéressant de voir le genre d'optimisation que la VM pourrait faire théoriquement et donc qu'elle fait dans d'autres cas. Donc là encore, il y a genre 23 lignes d'assembleur, hein, et puis enfin pas d'assembleur, pardon, de bytecode, et puis c'est converti en deux lignes de. Mais si c'est de l'assembleur, mais.
Ouais, c'est ça.
Pardon. Ouais. C'est converti en deux lignes d'assembleur si vous êtes sur le processeur, je sais pas quoi. Donc voilà, c'est intéressant de voir comment eux ils détectent des patterns et ils réécrivent de manière vachement différente des codes qui sont assez haut niveau parce que c'est plusieurs lignes et opérations de votre côté, quoi. C'est ça qui est intéressant. Voilà.
Cool.
Voilà.
J'attendais de la placer. côté langage, donc si on prend la JVM et les différents langages, vous aurez d'ici peu un épisode sur Scala que Guillaume a enregistré à Scala.io. Donc ça sera dans les semaines à venir. Et là, dans les nouveautés de la JVM, il y a Groovy qui est rentré au top 20 du Tiob Index. Donc ouais. Ça, c'était la news inutile du mois, à mon avis, mais dans le sens où qui, finalement, s'intéresse au Tiob?
C'est la question. Quand on est dedans, ça nous intéresse, quand on n'est pas dedans. Voilà,
ouais. Ouais, c'est un peu ça. Ouais. En gros, c'est quoi? C'est Sharp et Java en premier, de toute façon, et puis et le C, certainement.
Ouais,
ça doit être C,
ouais.
Java et Sharp, qui se battent en duel au début, et puis après les autres. Ce qui était marrant sur cette histoire, c'est que finalement, c'était Martin Odersky, qui pourtant, enfin, pour ceux qui le suivent sur Twitter ou autre, bon, c'est quand même quelqu'un qui est plutôt posé et qui c'est pas un gars à faire du buzz et des machins, et qui a justement lancé toute une attaque contre le Tiob au moment où justement ça a été annoncé que Groovy passait dans les 20 premiers. Donc
pas vraiment une attaque, c'est du genre, ça sert à rien le Tiob.
Ouais, c'est ça, sert à rien, mais avec plein de chiffres, tu sais, c'était argumenté avec après plein de ouais. Chiffres, de machins, bon, qui effectivement, tous ceux qui ont déjà regardé le Tiob se doutent bien que, il n'y a pas vraiment de valeur. C'est très très.
Regarde, si là tu peux, tu vois, tu m'avais dit c'est C Java et C Sharp. En fait, non, c'est C Java Objective-C,
C++,
PHP et C Sharp.
D'accord. Ouais.
Avec si on regarde le ratio, c'est quasi 70% plus Objective-C que C Sharp.
D'accord. Ouais.
Après, peut-être que j'ai pas jamais vraiment regardé le détail des métriques. Donc, mais c'est intéressant de voir qu'Objective-C.
L'écosystème Apple.
Bon, il reste MATLAB, COBOL. La Groovy, la progression, il y a 27 flèches vers le haut vertes.
Ouais, c'est ça.
Ils reviennent de loin, en fait, c'est ça que ça veut dire.
C'est ça, ils reviennent de loin. Mais ce que disait.
Escala n'est toujours pas dans le
top
1.
Non, il doit être 26 ou un truc dans celui-là.
Le 36e, oui.
36.
Mais
après, il est où?
Ouais. Dans les indicateurs, à première vue, il y a aussi tout ce qui concerne la communauté, les news, etc. Donc après, ce que disait Guillaume, c'est effectivement, ça a certainement été aidé par les conférences qu'il y a eu sur Groovy et tout ça. Donc après, voilà, c'est peut-être des choses qui sont un peu temporelles. Ça dépend de quand est-ce que c'est calculé, ça dépend de quels sont les indicateurs, etc. Donc bon, voilà.
Yes.
Yes. Allez, passons aux plateformes. Donc, dans les différentes news autour de tout ce qui est orienté plateforme, déjà, donc il y a une nouvelle. Donc, c'est quoi ? C'est une, il y a une liste de discussion sur tout ce qui est Java config. Là, j'avais vu passer ça via Nicolas Deloff, hein, que je suis oui. moyennement. Mais c'est quoi ? Ça va donner lieu ou c'est déjà une JSR ou c'est
Non, alors en fait, Java config, donc c'est la possibilité de configurer votre appli, hein, externaliser la conf ou sous XML ou sous properties, les injecter dans votre code, faire des placeholders dans votre XML, la possibilité de mettre ces fichiers à l'intérieur du WAR, mais à l'extérieur du WAR, donc c'est vraiment une spec attendue pour les devs et les ops. Mmh. On en parle depuis un bail. En fait, c'est Mike Kiss, c'est un mec d'Oracle ouais. qui traîne dans la sphère JPA, Hibernate, Toplink depuis ouais. au moins 30 ans, je pense.
Oui, et
oui. Et Mike a proposé cette spec il y a une petite année. Il en a parlé au sein de l'expert groupe Java E en disant ça serait bien de faire un truc autour de Java config. Il en a parlé à Java One, mais il a commencé la conférence en disant « le spec lead, ça sera pas moi ». On sait même pas s'il y aura une spec, donc voilà, l'idée, ça serait de faire ça, ça, ça. Il se trouve qu'il y a un mec donc qui s'appelle l'Anatole Tresch, qui vient du Crédit Suisse, qui a initié ce Google Groups. Donc aujourd'hui, hein, c'est uniquement un Google Group, mais quand même actif.
Oui, oui,
on est une quinzaine, je pense. Et les gens se disent, tiens, la configuration, qu'est-ce que c'est ? Est-ce que ça reste uniquement dans la plateforme Java E ? Est-ce qu'on la met un peu partout ? Est-ce qu'on met de l'XML ? Est-ce qu'on met du machin ? Est-ce qu'on met du bidule ? Donc ça papote. Et l'histoire dira si Anatole Tresch deviendra le spec lead et créera une spec. Mmh. Mais aujourd'hui, c'est juste une mailing list.
Un groupe de discussion, bien sûr.
Mais je pense qu'il faut... Enfin, si vous êtes intéressé, mettez-y votre nez, parce que l'inconvénient du JCP, c'est qu'il y a beaucoup de devs. Mmh. Et là, je pense que ça serait la première spec qui, justement, serait plus DevOps. Et on a besoin d'ops, on a besoin de gars qui déploient des applications sur des environnements différents, sur différents nœuds, qui externalisent leur conf de mille et une. Et puis il y a des frameworks comme Spring Config, il y a Sim Config, il y a Delta Spike. Enfin bon, voilà. Donc pour l'instant, c'est juste un Google Groups et on verra. Ouais.
Enfin, en tout cas, c'est vrai que c'est intéressant et que n'hésitez pas à rejoindre le groupe, parce que voilà, les discussions ont vraiment sens par rapport à tous ceux qui font du déploiement, qui sont un peu ops dans l'esprit. Il y a vraiment de quoi faire. Autre sujet, on a un blog qui a été fait. C'était donc quoi ? C'était sur Java E versus Node.js. C'était toi, Emmanuel, qui a poussé ça, qui a fait une.
Ouais, c'est un gars qui a développé un truc en Node.js rapidement, et puis après, ce qui l'a impressionné en termes de perf, et puis après, il s'est dit, bon, mais est-ce que je suis aussi rapide ou pas en termes de perf avec Java E? Et moi, ce que j'ai trouvé, je vais vous casser la baraque, mais en gros, Java E est moins rapide. Mais ce qui est intéressant, c'est deux choses pour moi. C'est, petit un, le cas d'utilisation, comme il dit dans son blog, était très focalisé sur Node.js. C'était en gros lire... un document JSON de CouchDB et puis le pousser via REST à un client. Mm-hmm. C'est simplissime. Mais moi, ce que j'ai trouvé, alors déjà on n'est pas très loin, c'est-à-dire que c'est vraiment pas le cas de le cas d'utilisation optimisé pour Java E, et on est peut-être 20, 25, 30% en dessous.
Mais 20%, je crois, oui.
20%. 20. Donc c'est pas déconnant non plus. Et l'autre truc que j'ai trouvé intéressant, c'est que quand je regarde le code de Node.js, il fait à peu près 15-20 lignes. Quand je regarde le code équivalent de Java E, il fait un petit peu plus parce qu'il y a les imports, mais en gros, c'est dans la même taille. Alors évidemment, le gars, il a D'accord. fait juste une servlette, doGet, etc. Mais en même temps, Node.js, c'est exactement ça. Donc, moi, ce qui m'a plus frappé, qui n'est pas écrit dans le blog, c'est que finalement, on n'est pas si verbeux que ça. Alors oui, il y a le problème de comprendre tout l'environnement, les servlettes, les transactions, les machins, etc. Mais en termes de volume de code, là, en l'occurrence... c'est pas significativement différent.
Ouais, pareil. Moi, c'est un blog, enfin c'est un article que j'ai lu avec beaucoup d'intérêt et d'attention, parce qu'effectivement, le mec, il est assez fair-play. Il dit le use case, c'est consommer du JSON. C'est vrai que, voilà, il a pas dit c'est je me contacte à des services web, un MOM, un bus, etc. Et il le dit clairement, c'est pas le meilleur use case pour Java E. En gros, the right tool for the right job. Et les performances sont pas, voilà, on nous dit Java E, c'est mal. Et comme dit en fait Emmanuel, avec le même nombre de lignes de code, on se retrouve avec des perfs un peu moins bonnes, mais pour un use case qui n'est pas fait pour nous en fait. Donc c'est pas trop mal.
Ouais.
Cool. Dans
Un
les
cool, c'est pour bloquer les gens quand tu vois, genre Antonio il parle de Java pendant 10 minutes et t'as fait cool.
Tu fais un cool.
Cool.
On va finir par connaître toute la recette, c'est ça, la
C'est
recette
ça.
miracle. Et donc, tu m'as perdu. Ouais, donc
La roadmap
la roadmap WebLogic, effectivement, ça a été annoncé là il y a quelques semaines aussi.
Ouais.
Via
C'est
Java.
marrant parce que, bon, c'est quand même des fonctionnalités significatives, mais non, c'est de 12.1.2 à 12.1.3, puis 12.1.4.
C'est ce
Tu
que j'ai
imagines
vu
même pas
aussi.
quand ils passent à 12.2 ou à 13, là, c'est genre, ils changent de langage.
C'est comme les drivers Oracle avec leur base de données, ils aiment bien
Ouais,
avoir
c'est
des
vrai.
chiffres, de chiffres, de chiffres, et finalement, ça ressemble plus à grand-chose.
Donc, je vais vous donner des mots-clés parce que j'ai pas forcément zoomé beaucoup dessus, mais c'est, bon, il y a, prochaine version, ça va être assez bullshit, c'est Mission Critical Cloud Platform, Native Cloud Management and Modern Development Platform. Donc, faudrait zoomer pour regarder ce qu'il y a dedans. Ce qui est un peu plus intéressant, c'est celle qu'ils annoncent pour à peu près 2014. Attention, ils montrent le slide qui disent que tout ce qu'ils pourront dire ne pourra pas être retenu contre eux. Mais c'est Full Java E7, donc à peu près fin 2014 si on regarde leur graphe. Multi-tenancy, donc la possibilité de, j'imagine, d'avoir des API qui permettent d'isoler, alors soit une application par rapport à une autre, ou soit un utilisateur par rapport à une autre dans la même application. Donc je ne sais pas ce qu'ils veulent dire là-dedans. Et le truc intéressant, c'est ce qu'ils appellent auto-scaling and density. C'est, j'imagine, l'idée pour WebLogic de créer d'autres nœuds de manière dynamique en fonction de votre besoin et de les éteindre pour optimiser les choses. Donc ça a l'air, il y a des trucs assez intéressants. Et évidemment, Java, donc fin 2014 à peu près, dans ce qu'ils ont l'air de dire.
Si Java E sort en temps et en heure comme d'habitude,
Non,
si
mais
tout va
ça, c'est
bien.
le 7, il
Non,
est déjà
ah, c'est le
sorti.
7, ah
Le
oui, non,
7,
ils sont que sur le
hein. Il
7,
parle
alors
de Java
oui, c'est
E7,
toujours le
ouais.
7, oui, moi je suis décalé d'une version. Oula.
Bah, c'est bien d'en parler un peu. Bon, moi, Weblo, c'est un serveur d'appli qui me tient à cœur, mais parce que j'y bossais il y a une dizaine d'années. Que je suis un petit peu, mais c'est vrai que la communauté est pas là, l'intérêt est moindre. Et puis moi, ce qui me fait un petit peu peur, c'est que Oracle a pris pas mal de gens de l'équipe de Glassfish et les amis ailleurs. Et j'ai l'impression qu'Oracle est en train de mettre moins le paquet sur Glassfish, un peu plus sur Weblo. Et Weblo, ça reste quand même un peu une usine à gaz hein, maintenant. Donc j'ai peur que Glassfish devienne un jour une coquille un peu vide et que le clustering, on l'ait uniquement dans Weblo et les trucs un peu plus sioux, on les ait uniquement sur Weblo. Bref, à suivre. Mais j'ai entendu pas mal de trucs et ça me rassure pas sur l'avenir de Glassfish et puis Weblo.
Ouais.
Bien
Bref,
chez
à
la
voir.
mouche sauvage.
Bah,
Donc nous ça va.
pour l'instant, ils arrivent quand même à s'en sortir Oracle avec leur 2JVM, avec Girokit et comment que ça s'appelle, et puis bah, la classique d'Oracle. Donc je sais pas, est-ce qu'ils ont
Hotspot.
Hotspot. Donc est-ce qu'ils ont, enfin après, voilà, on voit que les choses finissent par fusionner, finissent par se récupérer d'un côté ou l'autre. Là tout à l'heure, on cherchait d'où venait Mission Control, ça vient de Girokit par exemple. Mais toutes ces choses-là, bon, est-ce qu'ils vont pas réussir aussi? Alors ça va peut-être prendre du temps, mais à trouver un équilibre entre les deux. C'est clair que c'est pas simple, mais bon, entre une version open source et une version plus pro. Plus orienté, je sais pas moi, grand compte, grandes entreprises, je sais pas trop comment on peut appeler ça, mais bon, est-ce qu'ils peuvent pas trouver un modèle aussi pour lancer les bonnes opportunités à droite à gauche sur les deux serveurs d'app? Je sais pas, est-ce que vraiment est-ce que ça va faire doublon ou est-ce qu'ils vont réussir à faire vivre les deux serveurs d'app?
Ouais, à voir. On en parlait après le rachat il y a quelques années. Et j'ai l'impression qu'en 2013, c'est pas très très clair encore.
Bah, c'est pas clair, mais en tout cas, les deux vivent toujours. Mais bon, effectivement, c'est pas clair.
Ouais. On en reparlera, ouais. Je pense.
Dans les autres news côté plateforme, donc là, si on passe du côté Scala, il y a TypeSafe qui a racheté.
Juste avant, peut-être en finissant sur les serveurs d'app, donc Wildflight 8, bêta 1 est sorti.
Oui.
Donc, je crois qu'on est feature complete en termes de fonctionnalité pour avoir Java E7. Et après, bon, évidemment, il y a des bugs, on passe pas encore le TCK, donc il y a du boulot. Mais voilà, on commence à avoir normalement, on est censé avoir tous les blocs majeurs et puis on va avancer. Et au-delà de Java E7, donc il y a un serveur web à performance élevée, on va dire, qui s'appelle Undertow.io, qui fait du IO et du NIO. Alors c'est pas comme Netty, parce que Netty c'est vraiment un framework qui permet de faciliter l'usage de NIO, mais voilà, des frameworks web rapides, voilà. Réduction du nombre de ports ouverts en termes de management, etc. Donc on en aurait beaucoup moins, donc plus facile à gérer au niveau DevOps. Justement, ça c'est clairement un retour de nos clients payants. Gestion des rôles et des contrôles d'accès, l'auditing, et puis une infrastructure pour pouvoir patcher de manière plus simple le serveur d'application. Donc ta liste de pages, tu les rajoutes. Je vais pas trop zoomer là-dessus, mais voilà.
D'accord.
Voilà.
Ok. Donc ça, Wildflight qui vient de sortir en bêta, c'est le Wildflight 8. Enfin, la première version de Wildflight finalement, puisque c'est à partir de là que ça a changé de nom.
Ouais.
Le JBoss AS, le vieux JBoss AS. TypeSafe, donc qui rachète Spray.io dans le monde de Scala.
Ouais,
ça fait pas un peu doublon avec ce qu'ils ont déjà, avec tout l'écosystème. Enfin, eux, c'est pareil, ils sont pas en train un peu de se perdre dans tous les frameworks qu'ils ont à droite à gauche.
Je sais pas.
Et ça fait quoi, ça, déjà? Spray.io, ça fait quoi?
C'est sur comment que ça s'appelle, REST rendu, etc., ça, sur Spray.io, non?
REST, Reactive Application, etc.
Parce qu'ils n'avaient pas déjà une chose chez eux, il me semble, non? Je ne sais plus, mais il me semble qu'il y a...
Il y a Play Framework, mais... Enfin, il y a AK pour les trucs bas niveau, et puis il y a Play Framework qui était censé jouer enfin, la version 2, en tout cas, dans le mode réactif, etc., etc.
Voilà,
Et visiblement, Spray, ça va complémenter ça. J'avoue que je ne connais pas trop, donc c'était plus pour donner la news aux gens qui s'intéressent à la plateforme TypeSafe. Donc c'est vrai que bon, ils ont de l'argent, ils ont levé deux ou trois fois des fonds, et là ils construisent une stack en gros.
Ouais. Pour terminer sur la plateforme, si on va du côté du monde Spring, il y a Spring Boot qui est un projet assez récent, il a pas été annoncé, je crois, à la dernière conf Spring IO, je crois, enfin leur dernière conf, il me semble, hein, c'était assez récent.
C'est le framework qu'on peut écrire je sais plus, la plus petite application, elle tient dans un tweet, ou un tweet dans ce boulin, je me rappelle plus leur slogan, mais ça ressemble un petit peu, en termes de simplification, à ce qui a été montré par Oracle dans Avatar, sauf que ça s'appuie pas sur JavaScript, c'est du Java, et ça s'appuie sur Spring, Groovy, pardon, c'est très compact, voilà, quand on veut faire les choses les plus simples, c'est très compact. Après, bon, c'est toujours la question de la scalabilité en termes de complexité à voir, mais voilà, ils en sont à la milestone 5.
C'est ça.
Alors, c'est la 0.5 milestone 5. Alors, j'espère qu'ils alignent les 0.5 et les milestones, parce que sinon,
c'est compliqué.
Particulier, quoi.
Ouais, c'est ça. Passons maintenant dans le monde de la donnée. Donc là, c'était des news sur Cassandra 2 et la combien de versions du SQL maintenant?
C'est 3.
Version 3 dans Cassandra 2.
Alors pour ceux qui suivent très près DataStax, vous savez, hein, c'est Sylvain qui lit, ou en tout cas qui explique beaucoup ça à la communauté. Il reclarifie un petit peu l'histoire de Swift, la version SQL 1, l'intermédiaire SQL 2, et puis après SQL 3 qui pour eux l'abstraction propre là-dessus, avec un protocole d'interaction en plus. Donc c'est en gros SQL plus le protocole au niveau réseau qui permettent de discuter, donc ce que votre driver JDBC implémenterait pour parler à sa base de données serveur. Voilà. Et donc eux, ils disent, bon, là, cette fois, c'est le dernier, en gros. Pendant un certain temps, c'est ça qu'ils disent. Donc voilà, pour ceux qui sont intéressés, vous pouvez...
C'est le dernier jusqu'au prochain.
Bah, bah, tu peux pas non plus te mettre en... arrêter d'évoluer, mais là, c'est... ils veulent vraiment stabiliser ça, j'ai l'impression.
Non, enfin, ils ont raison. Après, c'est... vaut mieux un produit qui vit et qui assume ses évolutions plutôt qu'un produit qui s'enterre sur ses acquis.
Yep.
Passons au mobile. Donc, sur le côté mobile, Android vers du propriétaire. Donc, ça, c'est un article qu'on avait vu passer sur comment Oracle, enfin, comment Oracle, là, je fatigue, comment Google gère un peu la partie mobile et la partie Android.
Ouais. Alors, il y a plusieurs articles, je crois, mais celui-là ouais. qui est pointé, c'est comment il y a l'Android Open Source Alliance, Open Source Project, qui est la version open source, et comment Google a ses applications qui s'appuient sur ses services, qui sont propriétaires, donc Google Maps, Google Hangout, Google Images, ou je sais pas comment ils les appellent, enfin bref. Et ils montrent en fait de plus en plus de choses qui sont propriétaires à Google et sur lesquelles la partie open source n'est pas vraiment améliorée. Et ça clarifie aussi les contraintes qu'ont un gars qui travaille avec Google pour avoir les applications Google. En gros, on est obligé de signer un pacte avec le diable, et donc on peut pas vraiment dire tiens, je vais forquer Android, je vais faire un certain chose, et puis je vais aussi rajouter Google Maps. En fait, c'est soit tu utilises Google Maps et t'as Android tel qu'il est défini par Google, soit tu fais ce que tu veux, mais tu réécris toutes les applications à valeur ajoutée finalement. Et donc ils expliquent comment Samsung essaie de construire ses briques petit à petit, mais que c'est pas forcément facile, et qu'il y en a plein qui sont soit abandonnés ou d'autres qui ont essayé de se lancer là-dessus et qui se sont fait taper sur les doigts par Google. Et donc voilà. Donc ça montre un côté pas très clean en termes communautaire et open source de Android.
Ouais.
Voilà.
Mais enfin, c'est un peu. Enfin, j'ai l'impression que c'est un peu récurrent cette question de Google et sa gestion de l'open source. On en parle sur les différentes librairies. Je sais pas, qu'on croise tous les jours les Guava ou autres. Enfin, en gros, oui, c'est les sources sont disponibles en partie, tout du moins sur certains domaines, sur ce qui les intéresse de partager. Mais au final, ils gardent la mainmise là où ça les intéresse et puis ils font ce qu'ils veulent. Enfin, c'est un peu toujours le dilemme qui a l'air de se poser avec tout ce que fait Google. Je sais pas, enfin c'est j'ai l'impression de beaucoup entendre régulièrement ces questions se poser, que ça soit voilà, on les retrouve sur Android mais sur les autres sujets que drive Google. Ouais. Et dans les news Android, pour ceux qui connaissent aussi Romain Guy, ça y est, il a quitté l'équipe Android, pour ceux qui connaissent. Donc c'était un Français, un Lyonnais qui était parti chez Google il y a beaucoup d'années maintenant. Ça y est, donc là il va passer sur un autre sujet. Donc là c'est top secret bien sûr, mais voilà. Donc les anciens d'Android finissent par changer. C'était certainement des plus anciens. Les équipes se renouvellent.
Il était là, stagiaire avant qu'Android soit officiellement sorti.
C'est ça, il était vraiment, je crois, quasiment tout au début. Hein. Il était vraiment dans les tout premiers là-bas. Ouais. Donc voilà.
Et on ne sait pas où il va alors.
Il reste chez Google,
mais c'est pas. Oui, il dit pas. Enfin, en tout cas, publiquement, on ne sait pas où il va. Ouais. C'est ça. Donc dans les autres.
Ouais. Rien que des bières pour en résoudre.
Je sais pas si normalement il doit être à Devox en Belgique d'ici peu, donc
on va le faire
donc
boire.
Vous allez pouvoir le faire boire. C'est ça. Pour savoir.
Tu nous dis qu'est-ce que tu préfères, whisky, bière, on va trouver un truc.
Voilà, Romain, si tu nous entends. Donc dans la partie mobile, on a aussi un article sur les outils pour optimiser les images. Ça c'est une véritable problématique, de les bonnes images au bon format et de pas prendre trop de bande passante quand ça arrive sur un device avec une bande passante limitée.
Voilà, parce qu'on a le paradoxe de devices qui sont Retina, donc d'images qui sont en gros 4 fois plus grosses que
le normal.
Ce qu'on avait avant. Mais bon, on est encore en 3G pour pas mal de gens, et donc ça calme un peu. Justement, il y a des gens qui... Le what the fuck de la journée, c'était je vous présente un site web qui pèse 85,9 mégaoctets. Donc vous imaginez télécharger ça sur votre mobile et vous avez déjà capé votre... Et ça, c'était juste la homepage, hein, c'était pas... Donc bref, et donc ce blog explique différents outils pratico-pratiques pour optimiser les JPEG, les PNG, faire du sprite, c'est-à-dire une grosse image et qui est après séparé, on prend un morceau de cette image qui représente l'image telle que l'utilisateur la voit ou les images. Ça, ça évite notamment de, bah, d'attendre que les deux ou trois images soient downloadées avant d'aller chercher les trois autres images. Ça fait un gros téléchargement, ce qui réduit le nombre d'allers-retours HTTP, ce qui fait que c'est plus rapide du point de vue rendu utilisateur. Voilà, un certain nombre d'autres outils dans ce genre de veine.
Voilà. Voilà.
Voilà.
Bon, on passe à l'industrie et les communautés. C'est un document, je l'avais pas vu là, je l'ai vu quand tu as passé les news, un document qui a été produit, alors je sais plus par quel institut, sur le tableau des industries françaises du logiciel, quels sont les éditeurs, c'est le Syntec qui fait ça, qui est derrière. Ouais. Tu as lu, j'ai oublié en fait. D'accord. Moi j'ai vu qu'ils n'étaient pas dedans, XWiki non plus, je me suis dit bon, ça doit pas traiter des bonnes entreprises, alors voilà.
Je trouvais que les noms étaient très traditionnels
Ubisoft,
en fait.
Murex.
Ouais, c'est ça. En fait, on retrouve du Sopra Group, on retrouve du Hacksway que moi je connais, on retrouve effectivement des grosses boîtes,
du Dassault, du Thales, ce genre de choses.
Ouais, il y a Blizzard quand même.
Oui, après, sur les jeux, il y a toute une catégorie, effectivement, sur les jeux, mais avec Ubisoft, etc. Enfin, il y a quand même en France, il y a quand même beaucoup d'activités hein, sur la partie jeux. On est quand même bien positionné.
Ouais. Quand on regarde, par exemple, dans notre domaine, Talent, c'est 17e. Donc, derrière Dassault, Murex, je ne sais même pas ce que ça fait, Sopra Group.
Murex, ça fait un outil de finance, ça fait du pricing de finance, des trucs comme ça. Enfin, je connais rien, mais c'est pour la partie finance banque. Bon,
d'accord.
Donc effectivement,
on est beaucoup sur du vertical. On reste beaucoup, j'ai l'impression quand même, là, en France sur du vertical, c'est-à-dire qu'effectivement, on a peu d'éditeurs sur des plateformes horizontales, mais on a plutôt des spécialistes sur des domaines à droite à gauche.
Ouais. Beaucoup traditionnel, moi je trouve.
Oui, beaucoup traditionnel.
Oui, Valcatel, Airbus, Dassault, Alstom, Renault, PSA, enfin bon, voilà quoi.
C'est ça. Bon, on retrouve les mêmes toujours.
C'est ça. Ouais. Quand je serai grand, je bossais chez un éditeur. mais pas en France alors.
Oh, puis je pense qu'ils font tous partie du CAC 40 et les Big Boss ont dû faire la même école. Bref.
C'est un peu ça en France. Donc dans la communauté, Oracle qui envahit les jugs, mais qu'est-ce que c'est que ça encore? Que veut encore faire Oracle avec nos jugs?
Oh bah Oracle, ils disent que Java One c'est déjà beaucoup de taf, que Java One Russia, que Java One China, pourquoi, et au Brésil aussi, et ils font des Java One, en fait ils en ont 4 ou 5. Et je pense qu'ils en ont un petit peu marre, ils veulent se concentrer sur Java One US et se dire, eh ben écoutez les gars, on n'organisera plus de Java One China, de Java One Russia, mais par contre on va vous donner, on va donner plus de moyens aux jugs locaux pour faire des DevOps, des DevOps Belgique, des DevOps France, des DevOps China, enfin bon bref. En gros, aider plus les jugs locaux pour faire des événements locaux. Alors, ça peut être vu comme Oracle.
Du coup, ce que je me suis demandé, c'est est-ce que ils vont me dire, tiens, voilà de la thune et tiens, voilà des speakers avec des sujets qu'on voudrait voir abordés, ou est-ce que ça va être géré différemment?
Aucune idée. Nous, en plus, on a la particularité d'être en France et les contacts avec Oracle France se passent par les US. Ouais. Ça me paraît. Je pense que c'est un vœu pieux. Enfin, ça peut être vu comme Oracle laisse tomber les Java One, Chine, Japon, etc. En gros, Oracle laisse tomber les événements Java et il se dit aux autres débrouillez-vous. Est-ce que ça va être ça ou est-ce que ça va être Oracle va se pointer vers DevOps France, le Paris Jug et le Marseille Jug et ils vont dire voilà 4 millions de dollars. je ne sais pas. On verra bien.
Bon, à suivre.
Donc, ils envahissent les jugs. Enfin, ils sont plutôt en train de dire, on vous encourage.
Ouais, ils négocient, voir un peu comment c'est pris sur le terrain, ce genre de proposition, savoir s'il y a vraiment moyen de monter quelque chose avec les jugs pour remplacer leur Java One. Mais après, effectivement, s'ils essayent d'en avoir dans tous les continents, c'est peut-être pas plus simple que de laisser des initiatives locales qui seront peut-être mieux organisées que de faire ça en remote ou de faire ça avec des ressources limitées dans certaines parties du monde. Peut-être pas simple. Et donc l'Oracle et l'open source, cette fois, donc on parle donc passionnément, pas du tout. C'est quoi cette histoire encore?
Ben, c'est que...
Qu'est-ce qu'ils nous ont encore
fait? En fait, bon, ben, Oracle, c'est une grosse boîte, donc il y a des sous-divisions qui font des choses qui ne vont pas forcément aligner avec la vision globale de la boîte, et des fois, on voit que ça fait des trucs marrants. Et donc, il y a Oracle qui a écrit, un open paper, notamment pour les organisations gouvernementales américaines, en leur disant, bah, l'open source, ça coûte plus cher, c'est moins sécurisé.
Oui, j'ai vu ça, je l'ai vu, oui, effectivement.
Et là, on dit, mais Oracle, enfin, mais tu veux dire que Java n'est pas sécurisé, que GlassFish,
MySQL.
Voilà. Donc, là, on dit, mais bizarre, quand même. Et donc, le DOD, c'est pas démonté, et donc, ils ont répondu, à chacun des points, en fait, qui sont des points un petit peu passés maintenant, quand même. Enfin, on les avait déjà il y a 20 ans, enfin, 15 ans. Et voilà, enfin, c'était le grand débat il y a 15 ans. Maintenant, on est un peu au-delà de ça, quoi. Ouais. Et bah voilà, c'était marrant de voir, je pense que c'est Matt Hazé qui est, je sais plus où il est là en ce moment, mais qui en fait, fait le résumé de cette petite histoire. Donc voilà, c'est marrant. Si vous voulez faire une petite pique à Oracle et vous amuser 5 minutes, vous pouvez lire son article.
Okay. Dans les sujets donc plus français, plus francophones, il y avait eu on en avait déjà parlé, je crois, je sais plus si c'était sur le dernier épisode de News ou l'avant-dernier, il y avait un concours qui avait été organisé, que c'était le meilleur développeur de France. Donc maintenant il a eu lieu, ça a eu lieu il y a quelques semaines, il y a eu quelques retours, pas obligatoirement positifs, j'ai l'impression. Vous en avez entendu parler, vous, de votre côté? Moi, j'avais entendu parler du retour de David Gageot, sur lequel, effectivement, il disait, bon, bah, l'idée l'avait intéressé, mais sur l'implémentation, ça avait pas mal foiré, sur le jour J.
Ouais. Bah, c'est justement ça, c'est ce blog de
David.
De David, qui a pas essayé de critiquer avant, qui est allé, qui a été voir, et qui dit, bon, bah, voilà, je suis un peu déçu, mais il y a moyen de faire mieux, on va voir comment ils font. Le petit problème d'orga aussi.
Ouais, c'est ça. Il y a eu des problèmes de logistique.
Oui, je pense que c'est une V1. Enfin, moi qui ai fait une V1.1.0 du ParisJug, une 1.0 de DevOps France, il faut aussi laisser le temps aux gens. Ils s'améliorent avec les années. David disait que l'idée était bonne. Après, il leur faut peut-être une V2 pour améliorer ce qui est améliorable, mais comme tous, hein, je pense. Ouais.
En tout cas, bon courage à eux pour l'année prochaine, en espérant qu'ils aient le courage de le refaire. Mais ça avait l'air d'effectivement, l'ambiance était bonne, mais c'est vrai que les problèmes de logistique et d'organisation ont effectivement un peu gâché la soirée, j'ai l'impression.
Moi, j'aimerais bien connaître la date de création, et je tape en même temps, des meilleurs ouvriers de France.
Parce que
ça, c'est quelque chose qui est reconnu en fait aujourd'hui, qui a démarré à coup sûr sous Napoléon,
certainement,
ou comme
chose ça. Comme
ça, voilà, peut-être qu'il faut aussi donner le temps, et le meilleur développeur de France, peut-être qu'un jour, parce que les MOF, les meilleurs ouvriers de France, c'est la pâtisserie, la charcuterie, la boucherie, bon, c'est très très bien, mais pourquoi pas du dev aussi.
C'est ça, venez rejoindre.
Il n'y a pas que ça, il y a beaucoup, il y a aussi des, genre, orthodontistes, tu vois, tu pourrais pas penser, mais c'est quel rapport, mais il y a aussi des, parce que c'est de l'artisanat avec un travail, de l'orfèvrerie dans un domaine donné, en fait.
Okay.
Tu l'as, t'as trouvé l'histoire là ou pas?
1913.
Oui.
Napoléon
était mort. Hein.
Ah, était déjà mort depuis du bout de temps. 1913. Mais c'est vrai que ça manque quand même dans notre communauté. C'est vrai que là-dessus, on a toujours du mal. Enfin, après voilà, c'est une communauté récente. Si on prend par rapport aux autres technologies, par rapport aux autres métiers, mais c'est vrai que oui, on a encore pas de ni de meilleur développeur, ou j'aime pas trop le terme développeur. C'est un peu spécifique, mais bon, effectivement, il y a vraiment des choses à creuser à ce niveau-là.
Ouais.
On passe aux outils de l'épisode.
Ouais.
JPM4J, c'est qui? C'est toi, Emmanuel, qui a découvert ça?
C'est moi, j'ai été voir, j'étais à une conférence qui s'appelle qui est Open Blend, qui est en Slovénie. D'ailleurs, pour les gens qui ne connaissent pas la Slovénie, qui le plaçaient comme moi, pas du tout là où c'est sur la carte, je vous recommande... Bon, quand on dit y aller, c'est près de la mer Adriatique, c'est près d'Italie, c'est près de tous ces pays-là.
D'accord.
Et c'est super beau, il y a des arbres, c'est super vert, ils sont 2 millions, donc c'est pas énorme. Enfin, moi, j'étais très agréablement surpris et content de m'être complètement trompé sur le pays. Voilà, et donc il y avait un monsieur dont j'ai oublié le nom qui travaille sur JPM4J. Oh, oui. Donc, qui est Just Another Parking Manager for Java, et qui en fait vous permet d'installer les packages Java, donc Kubernetes, Log4j, ce que vous voulez, mais un petit peu à la mode RPM ou à la mode voilà Debian si vous connaissez. Et l'autre truc qu'il a fait qui est sympa, c'est un browser en ligne des packages et de leurs dépendances. Et donc, et il calcule un petit peu comme Google avec ses liens et le poids d'une page est plus grand plus il y a de liens vers elle. En gros, il définit quel est le projet le plus populaire. Donc là, par exemple, le top 1, c'est ArmCrest, JUnit, les API XML, XML Resolver, Xerces, etc. Donc après, il y a des résultats un petit peu bizarres, mais ça qui peuvent s'expliquer d'une manière ou d'une autre. Et quand vous cliquez sur un projet, vous voyez aussi ses dépendances d'un point de vue graphique. Et donc, vous voyez, si vous prenez... Il y a un projet qui était complètement à l'ouest. C'est pas autre problème. Bon, je pense qu'Hibernate, ça doit être pas être piqué des hannetons non plus. Donc, si vous prenez Hibernate, vous regardez, et là, vous voyez tout un graphe. Alors, on a beaucoup de dépendances optionnelles, mais du coup, c'est marrant de pouvoir voir graphiquement les dépendances qui se construisent petit à petit. Et puis, c'est un graphe qui bouge un peu dynamiquement, c'est sympa. Ouais, voilà, Hibernate, c'est...
D'accord.
Il y a pire, mais...
Oh la vache.
Mais c'est pas mal.
Ouais, c'est quand même pas mal.
Ça représentatif. Il y avait mieux, hein. Il y en a, c'est juste...
En gros, t'as trouvé l'implémentation de Jigsaw, finalement, c'est ça
c'est ça, en fait. Sauf que, non, il n'y a pas le composant runtime, mais voilà.
Ah oui, c'est vrai qu'il n'y a pas le composant, c'est juste là. Oui, mais en fait, Jigsaw, c'était un peu ça aussi, hein. C'était l'idée de gérer le provisioning, c'était pas le fait de gérer obligatoirement, après, ils ont mélangé tous les sujets, mais au départ, c'était de gérer l'installation, le provisioning, et de virer les logiques de ClassPass.
Ouais.
Donc, pas mal, donc à creuser...
Voilà, sinon il y avait l'autre article que j'ai mis, c'est sur les dot files. Alors les dot files, c'est les points vim,
les
rc,
points
quelque chose.
Alors ça parlera peut-être pas trop windowsiens par défaut.
Ils ont quoi, des points ini?
Ils ont des underscores.
Ils ont la registrie en fait.
Ouais. Ouais, oui, c'est ça.
Ce qui est bien, c'est que c'est en fait il y a une tendance à externaliser ces dot files dans un répertoire Git qui vous permet après de les synchroniser entre toutes vos différentes machines et d'avoir un bash qui répond toujours la même chose avec les optimisations que vous lui avez fait, un vim qui a les configurations qui vont bien, je sais pas moi, votre liste de serveurs dans le .ssh.config qui est partagé, etc., etc. Et donc moi je me suis fait ça à la mimine, et le monsieur je sais pas s'il y a un projet qui aide, mais en tout cas il partage un certain nombre de gens qui ont fait la même chose, et donc ça vous donne des templates assez intéressants là-dessus. Donc pour les gens qui sont sur Linux, Mac ou système UX, enfin Unix en général, ça vaut le coup d'investir là-dedans et de garder votre version Git. Donc quand vous faites des migrations ou vous travaillez sur plusieurs machines, c'est vraiment agréable.
Ouais. Moi, je sais que je suis comme toi, j'ai fait pareil à la mano, un certain nombre de fichiers qui sont synchronisés dans Dropbox entre toutes mes machines et donc versionnés, et donc tout ça. Mais c'est vrai que j'avais déjà vu le projet .files, enfin les projets .files, parce qu'effectivement, je crois qu'il y en a plusieurs des gens qui ont commencé des petites choses à ce niveau-là. Mais c'est vrai qu'il y a des trucs. En plus, il y a vraiment de quoi apprendre. Je sais que j'avais, en regardant ces scripts et ces fichiers de config d'autres gens, on découvre beaucoup de choses super intéressantes sur comment configurer.
Exactement.
Des choses, enfin, que j'aurais même pas imaginé sans lire ces fichiers-là. Alors, je saurais plus vous dire, mais effectivement, il y a tout un tas de trucs où on peut aller super loin sur la configuration, et puis, après, quand on les partage sur toutes les machines, bon, il faut avoir plusieurs machines, bien sûr, mais quand on les partage et tout, c'est quand même vachement pratique de se retrouver tout le temps sur le même environnement avec les mêmes configs, les mêmes alias, les mêmes commandes qui répondent de la même manière. Enfin, c'est quand même un gros bonheur.
Yes.
Yes.
Antonio qui nous renvoie dans le flux Skype derrière, il dit ah, marteau piqueur.
Ça y est.
Petite dédicace pour lui.
Ça y est, les mecs se remettent à détruire le mur juste derrière, et c'est pas facile. Bosser à la maison avec tout ce bruit-là, je vous dis, c'est pas facile.
J'avais un marteau.
Bon, t'as le choix entre ça ou plusieurs enfants, c'est pareil, hein, tu sais, ça peut avoir le même niveau de bruit, hein,
c'est pas la même fréquence.
C'est ça, c'est pas la même fréquence, mais c'est aussi du bruit, hein, quand t'es en vacances. Alors bon, on va voilà, terminer.
Sinon,
Vas-y, vas-y.
Non, ben vas-y, finis, parce que là, je reprenais mon côté naturel dominateur de.
Du mais, flux, vas-y, là, mais vas-y, domine pour finir l'épisode. Vas-y, j'aime ça.
C'est ça. Donc les conférences, bon, on n'a pas mis beaucoup. Il faudrait qu'on se reconcentre et regarder les prochaines conférences. En même temps, c'est les grandes dates, c'est souvent printemps, donc de mars à juin
et
septembre à novembre. Ouais, bah il y en a peut-être pour début janvier ou des trucs comme ça. En tout cas, il y a JotCon India, donc si vous êtes français en Inde vers Bangalore, vous pouvez venir nous voir. C'est hyper populaire là-bas, donc c'est toujours sympa d'aller voir les développeurs locaux. Évidemment, il y a DevOps Belgique. Il y aura des cascodeurs. Alors, pas tous, mais certains.
Pas tous.
On fera un épisode live et peut-être plus de choses à voir.
C'est ça.
Et puis, on parle de DevOps. Hein. On peut aussi parler de DevOps France, puisque ça y est, on a les dates. C'est du 16 au 18 avril 2014 à Paris. Voilà les gars.
Et l'ouverture du CFP devrait se faire, qu'est-ce qu'on a dit, début décembre, je crois.
Début décembre.
Je crois que je dis pas de bêtises. Voilà. Donc, patience et préparez vos papiers. On est en train de préparer l'équipe et puis de se mettre à fond là-dessus. Voilà. La dernière conférence que j'ai notée qu'on m'a reportée, c'est pour ceux qui aiment le LDAP. Alors effectivement, il y en a, on en connaît parmi nous, dans notre entourage, il y en a qui aiment le LDAP.
J'en connais deux.
J'en connais deux.
C'est ça.
J'en connais deux, ils aiment le LDAP.
Mais ils sont à fond,
ils sont à fond dedans. Il y a le LDAPCon qui a lieu à Paris les 18 et 19 novembre, voilà. Donc pour les fans du LDAP. Merci à tous.
Merci. Je pensais qu'on aurait fait un épisode de 1h30 avec ça, mais non, on est resté bien.
Mais on est que trois aussi, donc
si j'avais
on est moins interrompu et puis il y a une nuisance derrière.
Tu vois, quand on boit pas, ça change vachement.
C'est ça, voilà.
Bon, allez, ciao tout le monde et à la prochaine.
Allez, à la prochaine. Merci à tous. Bientôt.
Ciao les gens. Bye.
Le thème musical est le thème numéro 3, gracieusement offert par podcastthème.com, podcastthemes.com. Le logo a été dessiné par Nicolas Martignol, alias le Touilleur Express, www.touilleur-express.fr.